bon. Allô tout le monde, re-bienvenue dans un de nos podcasts signé Bimor Performance. Fait qu'aujourd'hui, un sujet assez intéressant, mais qui va rester quand même très court, parce que le dernier podcast était vraiment chargé, et on n'avait même pas fait d'études non plus. On fait tout le temps une étude, une revue, là, si on veut, là, avant de commencer nos podcasts, mais on avait décidé de pas en faire, vu que c'était déjà chargé. Aujourd'hui, ça va être plus court. Comme d'habitude, on va commencer avec notre étude, ensuite on embarque dans le gros du sujet. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler un petit peu des différents types d'hypertrophie. Donc, il y a un type qu'on va appeler sarcoplasmique et l'autre qu'on va appeler au niveau plus des myofibrillaires, là, si on veut, au niveau des myofibrilles. Et certaines personnes vont se dire hypertrophie fonctionnelle versus hypertrophie non fonctionnelle. Donc, on va aller démystifier tout ça parce que oui, il y a des mythes par rapport à ça. On va vous expliquer c'est quoi. On va rendre ça simple et compréhensible pour tout le monde. Puis, d'autres choses à rajouter?
Puis c'est ça, on va essayer pour une fois de le garder pour de vrai en bas de 40 minutes. Ça devrait facilement rentrer parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, on le rentre pas. Puis c'est notre deuxième prise de podcast parce que oui, on tourne les podcasts de chez nous parce que quand on tourne au gym, le son il est juste pas bon.
Ouais.
Fait qu'on le tourne de chez nous puis là, notre chien il était super excité pendant la première prise. Fait que là, on espère que c'est la bonne. Avant de commencer, et là, on peut parler peut-être brièvement de, dans deux semaines, le prochain podcast.
Prochain podcast, 17 décembre, ça va être un podcast, je pense que beaucoup de personnes vont apprécier. C'est comment survivre au repas des fêtes. Donc, Noël approche, les soupers de bureau, les parties de bureau, les parties de Noël sont déjà commencées, là, à l'heure actuelle. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent, c'est normal pour tout le monde. On va en parler comment ne pas aller tout scraper les efforts que vous avez fait dernièrement, dans les derniers mois. Parce qu'en vrai, tu sais, il y a tout le temps deux types de personnes. Il y en a qui vont travailler super fort, peu importe, là, de septembre à décembre. Puis là, rendu à décembre, il y a un petit laisser-aller. Puis là, on a l'impression que les efforts qu'on a mis, ben on en a perdu un petit peu ou peu importe, mais il y en a aussi d'autres qui vont juste comme angoisser comme un mois à l'avance avant Noël parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des soupers, ça les stresse, ça crée de l'anxiété. En tout cas, peu importe, on va essayer de vous donner des trucs pour passer à travers le temps des fêtes en appréciant cette période-là, puis en étant aussi favorable à tous les efforts que vous avez mis là dernièrement dans les derniers mois. Donc, on va partir avec l'étude. Veux-tu commencer, Brian?
Ouais, dans le fond, notre étude de cette semaine, comme on l'a dit, c'est par rapport aux protéines. Souvent, on entend ça, si tu manges plus que 20 grammes de protéines ou si tu manges 20-30 grammes de protéines et plus par repas, ben ça va se transformer en pisse puis toutes tes protéines, ben tu vas
les uriner,
ça sert à rien, blablabla. Fait que, est-ce que ce mythe-là est vrai? Justement, récemment, il y a une revue de la littérature, comme on parle souvent, de Brad Scofield. Brad Scofield, c'est un chercheur dans le domaine, il est quand même très réputé, c'est un spécialiste en matière d'hypertrophie.
Ouais.
Fait que hypertrophie, on va en parler tantôt, c'est quoi exactement, mais c'est le fait de grossir les muscles. Fait que lui, c'est un expert dans ça, ses recherches se basent essentiellement là-dessus. Puis, il y a eu une revue de la littérature justement à savoir si est-ce que c'est vrai que si tu manges plus que 20-30 grammes de protéines par repas, tu perds vraiment tes protéines.
T'sais, dans le fond, c'est comme si à passer 20 grammes de protéines, ça sert plus à rien d'en manger là, parce que tu construiras pas de muscle avec plus que 20 grammes de protéines, admettons. Puis là, souvent, l'excès va se ramasser dans l'urine. C'est comme souvent ça que les gens vont dire, puis tout ça.
Exact.
En continuant,
il y a aussi un mythe, là, je viens d'avoir un flash, là, je veux pas embarquer trop. Souvent, même ma prof de nutrition à l'université me disait ça, elle me disait, hey, si le monde qui mange plus que 20 grammes de protéines par repas, ils vont tout l'uriner, puis c'est pas bon pour les reins, parce que produire plus d'urine, apparemment, ça cause des problèmes de reins. Fait que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Justement, on vous parle de ça, là.
Ouais, ben pis, avant de commencer aussi, rappelez que, les protéines servent pas juste à bâtir du muscle, ils ont d'autres fonctions. Fait que, tu sais, oui, peut-être que le ratio, mais tu sais, il y a un certain seuil que dépasser ça, t'auras pas plus de bénéfices pour bâtir du muscle. Mais les protéines ont d'autres fonctions quand même, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est important à rappeler, mais c'est une petite parenthèse à part, là, on part vraiment dans le résumé de l'étude, là, si on veut.
Exact. Ben, juste pour enchérir, dans le fond, oui, les protéines vont être utiles pour construire du muscle, mais comme Elo, elle a dit, toutes nos enzymes de notre corps, toutes des protéines. Si on n'a pas, on enlève le muscle, mais si on mange pas de protéines, puis on n'est pas capable de bâtir des enzymes, c'est sûr qu'on meurt.
Non, c'est sûr, parce que, tu sais, les protéines ont des rôles qui sont comme fonctionnels, fait que oui, ils vont bâtir ton muscle, mais pas fonctionnel, structurel, mettons, au niveau des structures, mais aussi fonctionnel, tu sais, pour que ton organisme fonctionne optimalement, pis tout ça. Fait que les protéines, on en a partout dans le corps, c'est vraiment essentiel.
Fait que c'est ça, il y a pas juste deux rôles distincts, soit bâtir du muscle, soit s'en aller dans l'urine. Il y a comme un gros gap entre les deux, qu'il y a plein de choses intéressantes qui se produisent. Donc, Brad Scofield, ce qu'il a fait avec, puis il y a un autre co-auteur là, de la revue, je m'excuse pour le l'autre qui était avec lui, je me souviens plus de son nom. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plusieurs études, puis ils ont dit c'est quoi la quantité qui serait optimale pour bâtir du muscle. Mm-hmm. Fait que là, on s'intéresse plus ou moins à la santé générale, mais on parle de bâtir du muscle. Fait qu'ils sont venus à la conclusion que c'est pas un nombre de protéines exact, comme mettons 20 grammes de protéines
par repas,
plus que ça, c'est une perte. Parce que, tu sais, quand on y pense vraiment, une personne, une petite fille qui pèse 92 livres versus un bodybuilder de 300 livres, ils ont pas les mêmes besoins. Fait que c'est pas juste de dire que tout le monde, 20 grammes de protéines et
ouais,
plus,
ça ferait pas de sens.
C'est une perte. Fait que oui, c'est vrai qu'à partir d'un certain point, les bénéfices d'en manger plus sont diminués, même qu'à un moment donné, il y a plus vraiment de bénéfices. Mais de là à dire que c'est une perte complètement, je suis pas prêt à dire ça. Puis justement, dans l'étude, eux, ils ont dit que entre 0.4 et 0.5 grammes de protéines par kilo.
0.55 même.
À 0.55 grammes grammes de protéines par kilo de poids par repas, ça serait optimal.
Fait que dans le fond, dans une journée, dans le fond, eux, ils conseillent de répartir ça sur 4 repas. Fait que 0.4 à 0.55 grammes par kilo de poids corporel, séparés en 4 repas. Fait qu'au final, dans une journée, ça fait entre 1.6 et 2.2 grammes de protéines par kilo de poids corporel.
Fait qu'on est loin de notre 20 grammes de 20 grammes maximum par repas. Pour quelqu'un qui est de petite taille, peut-être que ça arrive flush aux 20 grammes. Mm-hmm. Mais si on prend l'exemple de quelqu'un qui pèse 100 kilos, pour faire des chiffres rapides, quelqu'un qui pèse 100 kilos devrait manger entre 40 puis 55 grammes de protéines par repas.
Si c'est en 4 repas, mettons.
Si c'est en 4 repas. Puis c'est ça, l'étude aussi montrait que manger 4 repas de niveau à peu près égal de protéines, c'était probablement ce qui était le plus optimal. Puis qu'il n'y avait pas de bénéfice nécessaire à manger 6, 7, 8 repas, ou même pour ceux qui étaient fans de Rich Piana d'Altan, manger je pense qu'il mangeait aux 2 heures. Pendant 24 heures.
Fait que 12 repas
par jour. Fait qu'il y aurait pas nécessairement plus de bénéfices. Souvent, par exemple, tu sais, c'est une revue de la littérature. Souvent, c'est fait par rapport à des moyennes. Mm-hmm. Fait que souvent, c'est des étudiants du collège qui s'entraînent plus ou moins. Fait que ça veut pas dire que c'est nécessairement vrai pour un bodybuilder professionnel.
Ouais. Puis tu sais, souvent, mettons, quelqu'un, tu sais, qu'on va voir, là, quelqu'un qui fait une prep de bodybuilding, là, je sais pas si en parle, je m'en rappelle plus si en parlait dans l'étude, mais tu sais, quelqu'un qui fait une prep de bodybuilding, qui vont, le but, c'est de perdre le plus de gras possible. Généralement, on va conseiller à ces personnes-là d'augmenter, justement, le niveau de protéines. Par rapport aux recommandations, là, pour avoir vraiment une perte de gras optimale, là.
C'est pour ça que, là, en ce moment, l'étude, elle suggérait 1.6 à 2.2 grammes de protéines par kilo dans une journée. Mais quelqu'un qui est en fin d'une préparation de bodybuilding, c'est pas rare qu'on va se rapprocher du 3 grammes de kilogrammes par kilo. Fait que pour quelqu'un qui pèse 100 kilos, c'est pas la fin du monde s'il se rapproche de 300 grammes de protéines par jour.
Fait que dans le fond, là, retenez que de 1.6 à 2.2, là, c'est vraiment, c'est comme une base, je sais pas comment dire ça, un point de référence que vous pouvez suivre, puis qui va être approprié pour la plupart des gens, là, tu sais. C'est essayer des affaires, tester des affaires, mais, tu sais, ça veut juste dire que généralement, là, au-delà de 2.2, t'auras pas plus de bénéfices au niveau de la synthèse musculaire. Ça veut pas dire que c'est néfaste, par contre. Faut faire attention à ça. Tu sais, c'est pas parce que tu manges 2.5 que tu vas te scraper les reins, là, tu sais. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, puis c'est ça.
Ça, c'était une autre revue de la littérature, là, mais ça a été, pour en revenir, là, les manger beaucoup de protéines, même si à partir d'un certain point, c'est pas plus bénéfique, il y a pas d'impact négatif sur les reins, le foie, la santé générale.
Pour quelqu'un, tu sais, qui a pas de problème de reins.
Exact. On avait-tu d'autres choses à dire là-dessus?
Mais tu donnais ton exemple, tu sais, l'exemple de, tu sais, c'est pas parce que quand tu cours, mettons quelqu'un qui sait pas, quelqu'un qui a la cheville pétée, là, c'est l'affaire de la course, là, c'est
Pour le dire. Okay. Ben pour les protéines, puis souvent on dit que les protéines, ben on vient de dire que c'était pas vrai, mais que c'est pas bon pour les reins pis tout. Mais, je me souviens plus tant de mon exemple.
Ben, tu sais, mettons là, qu'on prend quelqu'un qui court, là. On prend une personne qui a une des chevilles saines, pis quelqu'un qui a la cheville cassée. C'est sûr que d'aller courir, la personne avec la cheville cassée, ça va lui faire mal. Mais c'est pas parce que tu cours que tu vas te casser la cheville. Fait que c'est la même chose avec les protéines. Tu sais, ça se peut quelqu'un qui a un problème de rein, on va lui recommander de pas manger un certain, mettons, plus haut que tant de protéines. Mais cette personne-là, elle a à la base un problème de rein. Mais quelqu'un qui a des reins qui sont sains, ça veut pas dire qu'elle d'aller manger des protéines, ça va lui causer des problèmes de rein. Fait que juste faire l'analogie avec la course, je sais pas si c'était simple, c'est une façon plus simple de le dire. Non, je voulais que tu le dises parce que quand je le dis, c'est tout le temps compliqué, là.
C'était juste que quelqu'un qui court,
c'est pas parce que tu cours que tu vas te casser la cheville, mais oui, si t'as la cheville cassée, courir, ça va te faire mal.
C'est ça. C'est le même principe pour les protéines. Si t'as des problèmes de rein, oui, manger
trop de
protéines, ça peut empirer les problèmes de rein, mais c'est pas, si t'es en santé, manger trop de protéines va pas te causer de problèmes de rein. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que, oui, manger trop de protéines, à un moment donné, ça a pas de bénéfice supplémentaire, mais ça cause pas de problème pour la santé. 0.4 à 0.55 grammes de protéines par kilo par repas semble être optimal.
Pour 4 repas par jour.
Puis le mythe du maximum 20 grammes de protéines par repas, c'est plus ou moins vrai, c'est plus par rapport à votre poids que vous avez.
Un genre de ratio par rapport au poids corporel.
Puis aussi, c'est pas précisé dans l'étude, mais par rapport à vos objectifs. Quelqu'un qui va être en période de cut pour perdre du gras va avoir tendance à augmenter un petit peu ses protéines, puis quelqu'un qui est en prise de masse peut diminuer un petit peu ses protéines. Autre chose à rajouter.
Non,
je pense que
c'était sec.
Ouais, mais je pense que c'était quand même clair.
Ouais, je pense que c'était compliqué.
On l'a bien mis.
Ouais.
Fait que notre sujet du jour, ça fait déjà 12 minutes que le podcast est commencé. Fait que je pense qu'on va dépasser encore. Fait que notre sujet du jour, les deux types d'hypertrophie. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment deux types d'hypertrophie? C'est la question qu'on s'est posée parce que même à l'école, on l'a vu, il y a deux types d'hypertrophie. L'hypertrophie sarcoplasmique, l'hypertrophie myofibrile.
Puis là, la première affaire qu'on se fait dire, c'est, mettons, les bodybuilders vont avoir une hypertrophie sarcoplasmique, puis mettons, les powerlifters vont avoir une hypertrophie qui est myofibrillaire.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est quelque chose au même type que les 20 grammes de protéines par repas? Ça a été inventé, mais ça n'a pas vraiment de preuves. Fait qu'on parle de ça. Premièrement, c'est quoi l'hypertrophie?
Est-ce qu'on donne l'exemple du pot-maçon?
Ouais.
C'est l'hypertrophie.
Ouais. On va parler de l'hypertrophie en général.
Vas-y, passe ça, puis je vais donner mon exemple.
L'hypertrophie, c'est le fait de grossir. Si on parle d'hypertrophie musculaire, ça va être de grossir la masse musculaire, le muscle. Fait que l'hypertrophie en général, ça peut s'appliquer sur plein de choses.
Ouais.
Mais si on parle, nous, on s'intéresse.
Nous, quand on parle d'hypertrophie,
on s'intéresse à l'hypertrophie musculaire. Fait que c'est le fait de, par exemple, grossir nos cellules musculaires pour avoir des plus gros muscles.
Ouais,
en gros, c'est ça. À partir de là, on sait c'est quoi l'hypertrophie, c'est défini. Il y aurait supposément deux types d'hypertrophie. Souvent, c'est les deux types qu'on entend le plus souvent. Il y aurait l'hypertrophie sarcoplasmique puis l'hypertrophie myofibrille. Myofibrillaire. Fait que si on va donner l'exemple du pot maçon.
Ouais. Pour dans le fond illustrer là, c'est quoi un muscle en gros, parce que là, tu sais, vous pouvez imaginer un muscle comme un gros morceau de viande là, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Fait que admettons qu'on prend un pot maçon. OK, là j'ai inventé cet exemple là, je sais pas, ça m'est passé par la tête, mais je trouvais que c'était bien illustré. Votre muscle, c'est un pot maçon. Fait que prenons un pot maçon, imaginez que ça c'est votre muscle. Dans le pot maçon, rajoutez des pailles, OK? Donc chaque paille, ça va être les fibres musculaires. Fait que ça, les gens habituellement sont quand même habitués de parler des fibres musculaires. Là, des fois, vous allez vous faire dire « Ah, oh, toi, t'as des fibres rapides, toi, t'as des fibres lentes. » Ben, quand on parle de fibres, c'est ça. C'est les pailles. Puis dans chaque paille, rajoutez des spaghettis, mettons. Donc, faut y mettre plein de petits spaghettis dans chaque paille. Chaque paille est dans un gros pot maçon. Chaque spaghetti, c'est les myofibrilles. Fait qu'on va en parler tantôt, c'est quoi les myofibrilles. Mais brièvement, là, c'est ça qui permet à votre muscle de se contracter.
C'est ça. C'est pas la... Ben oui, c'est la fibre musculaire, mais la fibre musculaire se divise en plusieurs myofibrilles qui, c'est ça, qui se contracte.
Ouais, c'est vraiment la myofibrille qui permet au muscle de se contracter. Fait que dans le fond, t'as ces trois éléments-là, puis dans ton pot maçon, fait que là, t'as ton pot maçon, t'as tes pailles, tes spaghettis qui sont dans chaque paille, rajoute de l'eau. Ça va être comme... ça va être ton sarcoplasme, en fait.
C'est ça. Fait que l'hypertrophie sarcoplasmique, ça serait un peu d'ajouter de l'eau dans notre pot maçon, puis éventuellement de changer de peau maçon pour qu'il soit plus gros, ouais, pour pouvoir rentrer plus d'eau. L'hypertrophie sarcoplasmique.
Ça, c'était ça.
L'hypertrophie myofibrillaire, ça serait d'ajouter des spaghettis dans nos pailles. Soit d'ajouter nos spaghettis ou des...
Nos spaghettis.
Ou de prendre des plus gros spaghettis. Fait que soit qu'on en ajoute...
Genre, mettons, je sais pas moi, des... Je suis pas très bonne en pâte. Des fettuccini.
Je suis vraiment pas bonne en pâte. Fait que c'est un peu la différence entre les deux. Fait que l'hypertrophie, comme on a dit là au début, c'est aussi appelé l'hypertrophie non fonctionnelle puis l'hypertrophie fonctionnelle.
Pourquoi on dit ça maintenant?
Fait que l'hypertrophie non fonctionnelle, on l'appelle non fonctionnelle parce que ça l'aide pas à produire plus de force. Ça serait ajouter de l'eau dans notre peau maçon. Oui, notre muscle ou notre peau maçon, il est plus gros, mais il est pas nécessairement plus puissant. Parce qu'on n'ajoute rien qui peut se contracter.
C'est ça, exactement. On ajoute des éléments qu'on va dire non contractiles.
Puis on va y ajouter exactement tantôt c'est quoi qui est ajouté dans ça. Puis il y a l'hypertrophie fonctionnelle. L'hypertrophie fonctionnelle, on ajoute des myofibrilles, on augmente la grosseur, la longueur des myofibrilles ou de nos spaghettis. Mais ça se contracte. Fait que le fait d'ajouter ça, ça s'appelle l'hypertrophie fonctionnelle parce que ça l'aide à la production de force.
Ouais.
Fait que ça, en gros, c'est... Là, on a défini l'hypertrophie en gros. Après ça, l'hypertrophie se divise en deux, soit l'hypertrophie fonctionnelle, non fonctionnelle, sarcoplasmique ou myofibrillaire. Est-ce que on va continuer dans la théorie des bros là, qui ont inventé cette théorie-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais souvent, les bodybuilders, ils ont réputation d'avoir une hypertrophie sarcoplasmique.
Ouais.
Parce que...
C'est tout le temps l'image qu'on va dire bodybuilders sont plus gros, mais sont pas aussi forts que les powerlifters. Ça veut dire qu'eux, ils ont plus d'hypertrophie sarcoplasmique. Ça, c'est comme la théorie de base.
C'est ça, parce que souvent, quand tu compares un powerlifter avec un bodybuilder, puis tu leur demandes de faire un max au squat, le powerlifter va être beaucoup plus efficace. Mais le bodybuilder, il a des plus grosses jambes. Fait que là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ben, c'est parce que lui, il a de l'hypertrophie non fonctionnelle. Tu sais, c'est... Penser comme ça, veut pas, c'est logique. Donc, la théorie, c'est que faire des répétitions, des hautes répétitions, par exemple 10, 12, 15, 20 répétitions et plus, ça a tendance à augmenter un petit peu plus l'hypertrophie sarcoplasmique ou non fonctionnelle. Donc, plus de liquide, plus de trucs non contractiles qui s'ajoutent dans notre muscle. Puis, s'entraîner plus en force, fait que moins de 8 répétitions, ça a tendance à augmenter un petit peu plus les éléments contractiles de notre muscle. Je pense que ça fait quand même un bon résumé. Mm-hmm. Et aussi, c'est pas juste le nombre de répétitions, mais ça peut être aussi le temps sous tension.
Mm-hmm.
Parce que tu peux faire une série de 5 répétitions, mais descendre ta charge en 10 secondes, puis la remonter en 10 secondes, tu sais, ça fait une longue série, même si on a juste 5 reps. Fait que ça peut aussi tomber dans du sarcoplasmique, même si on a juste 5 reps. Autre chose à ajouter là-dessus?
Non. Tu veux qu'on parte avec quoi? On les sépare les deux?
Peut-être juste rajouter l'hypertrophie sarcoplasmique. Je veux pas rentrer trop en détail parce qu'on tombe vite dans des trucs vraiment compliqués. Mais ce que la théorie suggère, c'est que il y aurait du glycogène probablement, du glucose qui se stockerait un petit peu plus dans le muscle, puis de l'eau.
Pis ok, aussi... mais ouais, mais non, mais ça, on peut en parler un peu plus. Bon, tu sais, pourquoi...
Parle-en un petit peu plus.
Parce que dans le fond, là, faut tout le temps... Mettons que tu manges plus de sel que d'habitude, ok? Tu manges bien gros du sel. Ce qui va arriver, c'est que ton corps va faire de la rétention d'eau. Pourquoi? Parce que là, il sera plus en équilibre. Il va avoir trop de sel par rapport à la normale. Fait que pour rééquilibrer, si on veut, tu sais, le soliteux dans le solvant, mettons, Chobac à vos secondaires 4 de science, là, ben il faut rajouter de l'eau. Comme ça, l'équilibre entre le nombre de sel puis l'eau va être retourné à la base, si on veut. Fait que c'est la même chose. Si, mettons, vous augmentez, par exemple, le glycogène dans votre muscle, il va y avoir également de l'eau qui va rentrer pour garder l'équilibre.
C'est ça, parce que en moyenne, une personne stocke 1,5 à 2 grammes de glycogène par 100 grammes de muscle.
Ouais.
Quelqu'un qui est habitué de s'entraîner, puis surtout quelqu'un qui peut s'entraîner plus en haute répétition, pourrait théoriquement aller jusqu'à 4 grammes de glycogène par 100 grammes de muscle.
Ça veut dire qu'avec l'entraînement, tu peux augmenter ta capacité à stocker du glycogène, donc il va être par la suite utilisé comme énergie dans le muscle.
C'est ça.
Donc, tu peux augmenter ta capacité à stocker du glycogène dans ton muscle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu stockes du glycogène, il y a de l'eau qui suit. Fait que s'il y a de l'eau qui suit, le sarcoplasme, comme on parlait tantôt, va augmenter. Donc ça, c'est une des théories derrière l'hypertrophie sarcoplasmique.
Parce que, aussi la théorie, c'est que quelqu'un qui a zéro glycogène dans son muscle, 0 gramme de glycogène par 100 grammes de muscle, versus quelqu'un qui est stocké au maximum à 4 grammes de glycogène, plus l'eau qui s'accumule, il y aurait potentiellement, ça c'est théorique, il pourrait potentiellement avoir des muscles 16% plus gros. Mais ça, c'est vraiment théorique, puisque les recherches semblent prouver, c'est que on s'enlignerait plus vers du 2 à 3% plus gros.
Ouais, fait que dans le fond, 2 à 3%, oui, il y a une différence, mais c'est pas tant que ça. Tu sais, ça veut dire que quelqu'un qui s'entraîne déjà, puis tu sais, il peut pas espérer avoir beaucoup, beaucoup de gains en glycogène avec l'entraînement, il va en avoir, mais il y aura pas du, ça ne s'élèvera pas à 15%. Là. Comme on dit, ça va être plus aux alentours de 2-3%.
Fait que la théorie du glycogène puis l'hypertrophie sarcoplasmique, oui, ça pourrait faire du sens, mais ça serait vraiment mineur. Tu sais, si ton bicep il est 2% plus gros, est-ce que tu vas vraiment le voir à l'œil? Peut-être pour un culturiste pro.
C'est ça, mais tu sais, culturiste pro, eux, ça va être, le 1% va faire une différence. Mais pour quelqu'un qui s'entraîne au gym, mettons un powerlifter, whatever, je sais pas pourquoi je sors ça, mais n'importe qui, est-ce que vraiment le 1% va faire la différence?
Probablement pas. Puis l'autre théorie, ça serait aussi que le muscle pourrait avoir davantage de protéines non contractiles qui, eux aussi, amèneraient de l'eau.
Ouais, faut tout le temps regarder le ratio, si on veut, là.
C'est ça. Mais encore là, les recherches sont pas encore assez certaines de savoir c'est quoi les protéines, c'est quoi leur rôle exactement.
Mais l'effet serait probablement plus marqué que le glycogène, encore là, au niveau de l'hypertrophie sarcoplasmique.
Donc, on a parlé du glycogène, des protéines non contractiles. En gros, ce que la recherche semble indiquer, c'est que oui, ça pourrait avoir un effet, l'hypertrophie sarcoplasmique.
Mais c'est un peu comme si, là, tu sais, quand on parle d'hypertrophie sarcoplasmique, c'est comme si c'est un fait. Mais de plus en plus, avec les études, on se rend compte que c'est pas si clair que ça. Comment ça se produit, puis c'est quoi exactement? Fait que, tu sais, la théorie de dire que les bodybuilders ont plus d'hypertrophie sarcoplasmique, je pense qu'il y a encore des études à aller chercher pour vraiment affirmer les faits. Parce que c'est comme pas tellement clair à ce jour, contrairement à ce que la plupart des gens pensent.
S'il y aurait une hypertrophie, oui, il pourrait avoir un petit peu d'hypertrophie sarcoplasmique, un petit peu, mais ça serait dans la plupart des cas une hypertrophie myofibrillaire avec des protéines qui se contractent puis qui se transfèrent vraiment en force. À cette heure, pourquoi les bodybuilders seraient moins forts que les powerlifters s'ils ont plus de muscles? Puis en disant que leur niveau d'hypertrophie sarcoplasmique est minime. Okay. La raison de ça, c'est que la force, c'est quelque chose qui se pratique.
Ouais.
Fait que si on fait faire un max, un RM ou une répétition maximum au squat, au powerlifter puis au bodybuilder, ben c'est normal que le powerlifter soit plus fort parce que c'est son sport, c'est ça qu'il pratique tout le temps. Mm-hmm. Tu deviens meilleur à ce que tu fais. Fait que j'arrête pas de dire fait que, ça me
gâte. Mais tu sais, là, en fait, c'est juste pour dire que la force est spécifique à comment tu t'entraînes. Là.
C'est ça. Genre, hier, moi pis là, on s'en parlait, on se disait, ça serait intéressant de voir, par exemple, si on fait un 10 RM au bicep curl, ça serait quel le powerlifter ou le bodybuilder qui serait plus fort? Puis on s'est dit, ça serait probablement le bodybuilder, parce que c'est ça que le bodybuilder fait plus souvent. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas vraiment juste de comparer, lui, le bodybuilder, il est plus gros, mais il a beaucoup plus d'hypertrophie non fonctionnelle, fait qu'il est faible pis tout. Non, c'est vraiment, on peut pas comparer ça comme ça.
Ouais, non.
Avais-tu d'autres choses à ajouter?
Non, mais tu veux-tu faire comme un lien, tu sais, quand tu fais on dit que tu vas aller faire un gros training de pompe, là, tu veux en parler, ou tu sais, il y a une différence entre, le long terme puis le court terme.
Ouais. Dans le fond, ce que Lou veut dire, c'est que souvent, quand on va au gym, mettons, puis là, on se fait un training de biceps, puis là, on sent que notre bicep, il est gonflé, mm-hmm. parce qu'on fait beaucoup de répétitions, puis là, on se regarde dans le miroir, on est comme, oh, mon bicep.
Mais tu sais, c'est un peu ça qui arrive. C'est un peu comme si on veut de l'hypertrophie sarcoplasmique, parce que tu vas avoir plus d'eau, plus de sang dans ton muscle, ça va faire grossir ton muscle. Mais tu sais, ça, oui, c'est vrai, c'est réel, mais ça dure pas longtemps. Fait que tu sais, c'est ça. Des fois,
c'est pas comme de l'hypertrophie constante.
On sait que ça restera pas. Fait que tu sais, ça compte pas vraiment dans l'hypertrophie sarcoplasmique, mais le phénomène est similaire.
Fait qu'il faut faire la différence entre un genre d'hypertrophie aiguë puis chronique.
Ouais.
On avait-tu d'autres choses à dire? Ah oui, juste un petit point. Est-ce que les stéroïdes augmentent un type d'hypertrophie plus que l'autre, mm-hmm. ça encore une fois là, les études semblent pas être claires. Fait que souvent, on aurait peut-être pu penser que ouais, mais les bodybuilders ils ont plus d'hypertrophie sarcoplasmique parce qu'ils prennent des stéroïdes. Plus ou moins vrai là, on n'est pas encore capable de déterminer avec certitude. Puis on n'est même pas encore capable de déterminer si l'hypertrophie sarcoplasmique a un réel impact sur le visuel. Autre chose à dire?
Non, tu parlais de la fonctionnelle un peu. Ça va être vraiment moins compliqué. Le fonctionnel, c'est établi.
Je voulais parler de ça. Je voulais dire justement, ça se peut que, ben là, vous aurez plus peur avec ce qu'on vient de dire, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir peur parce que en powerlifting, on a des catégories de poids. Puis si à l'entraînement, je m'entraîne en faisant juste du 12 reps, je me dis, ouais, mais là, moi, je vais prendre de l'hypertrophie non fonctionnelle.
Puis, parce que ça, on l'entend souvent, là. Si tu fais genre 12-15 reps, là, ça sera pas fonctionnel. T'es mieux de rester, mettons, dans le 6-8 reps en tant que powerlifter, mettons.
Fait que, j'ai encore dit fait que.
Pas grave.
Donc, c'est quelque chose qui peut faire peur quand on est moins instruit, de dire, ah, mais là, moi, je fais de l'hypertrophie non fonctionnelle vu que je suis dans le 15 reps.
Ou mettons un coach va dire, fais pas ça, c'est une mauvaise idée, tu vas prendre...
C'est pas de la force, là, tu vas juste gagner en eau pis en muscle qui se contracte pas. C'est plus ou moins vrai.
Parce que, en fait, retenez juste qu'en ce moment, l'hypertrophie sarcoplasmique, tu sais, c'est vraiment pas aussi clair que ce que les gens pensent. Ouais. Tu sais, ça semble pas avoir un impact vraiment majeur au niveau, tu sais, du muscle en tant que tel, là.
Puis si par exemple, ça prend...
a un impact, l'impact est, j'allais dire, small, mais est petit, là, quand même.
Si, par exemple, tu t'entraînes en 10-15 reps pendant ton entraînement, mais tu prends de la masse, même s'il y a un petit peu d'hypertrophie fonctionnelle, de façon générale, si tu prends du muscle, ta force va augmenter, quand même. Fait qu'il y a pas à avoir peur que tu vas... Toute la masse que tu gagnes, elle va pas se transférer en force. Si tu fais une phase d'hypertrophie, après ça, tu fais une phase de force. Dans la majorité du temps, tu vas devenir beaucoup plus fort parce que tu as pris du muscle, au-delà du fait qu'on se dit « Ah, c'est peut-être de l'hypertrophie non fonctionnelle.
Mm-hmm. »
Je pense que ça faisait le tour.
Ouais, puis tu sais, tu peux pas t'entraîner en disant « Tel type d'entraînement, c'est pour l'hypertrophie non fonctionnelle, tel type d'entraînement, c'est plus fonctionnel. » Tu sais, tu peux pas savoir en temps réel qu'est-ce qui va se passer au niveau de ton muscle, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui focusent trop là-dessus sans vraiment savoir pourquoi. Puis finalement, ben c'est ça, tu veux-tu parler de ce qui se passe? Donc, tu sais, dans le fond, là, hypertrophie fonctionnelle, on l'a pas vraiment expliqué, là. Mais en gros, si on reprend notre exemple du pot-maçon avec les pipes et les spaghettis, c'est comme si tu prends le spaghetti puis tu le fais grossir en largeur ou parfois même en longueur. C'est surtout en longueur plus, dans le fond, quand une myofibrille, un spaghetti augmente en longueur, souvent ça va être plus lié à la flexibilité, par exemple. Donc quelqu'un qui fait beaucoup de flexibilité va rajouter de la longueur à ses petits spaghettis. Mais généralement, une hypertrophie, ça va être plus au niveau de la largeur, donc au niveau de la circonférence, si on veut. Fait que ça, c'est vraiment plus l'hypertrophie qui est fonctionnelle, myofibrillaire, qu'on appelle. Fait que c'est ça, on l'avait comme pas vraiment expliqué comment ça se passait, le processus, mais c'est pas mal plus clair que la sarcoplasmique. Retenez ça. Puis, c'est ça.
En résumé?
Vas-y, ouais.
En résumé, si on repart du début du podcast, n'ayez pas peur de manger des protéines. Ça va pas vous créer des problèmes de reins.
Ouais, puis dans le fond, si vous dépassez 20 grammes, c'est pas nécessairement grave. Oui, il y a un seuil de protéines où que la synthèse musculaire est maximisée, là, donc au-delà d'un certain nombre de protéines, t'auras pas plus de bénéfices au niveau de la synthèse musculaire. Tu peux avoir d'autres bénéfices au niveau de certaines autres processus dans ton corps, mais pas nécessairement au niveau de la masse musculaire, mais ça sera pas nécessairement néfaste pour ta santé. C'est ça. Donc, généralement, là, on va vous conseiller de prendre environ 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids corporel de protéines par jour, divisé idéalement en 4 repas, là, environ. Exact. Encore une fois, c'est une notion qui est théorique. Chaque personne peut l'adapter à ses besoins. Ça, retenez tout le temps ça.
Puis, au niveau de notre sujet principal, l'hypertrophie non fonctionnelle, ça s'enligne pour exister,
là, tu sais, ça semble exister, mais c'est vraiment pas aussi clair que ce que les gens pensent, puis ça n'a pas un impact aussi important que ce que les gens pensent, probablement. Donc, il y a encore des études qui doivent être faites à ce jour, parce que c'est très difficile de mesurer l'hypertrophie sarcoplasmique, de vraiment savoir ce qui se passe en temps réel. C'est encore difficile, c'est pas mal plus clair au niveau de la myofibrillaire, qui, elle, s'est reconnue. Généralement, c'est ce qu'on veut, parce que c'est vraiment une hypertrophie au niveau de ce qui se contracte au niveau du muscle. Donc, si ça augmente, la fosse risque d'augmenter, surtout si tu t'entraînes de la bonne façon par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est encore un petit peu flou au niveau de la sarcoplasmique, mais je pense que les gens vont trop focusser là-dessus parfois en se disant « Ah, fais pas ça parce que tu vas augmenter ce qui se contracte pas dans ton muscle, tu vas prendre du poids pour rien. » Puis pour comme exemple, ils vont donner référence aux bodybuilders qui sont très très gros, mais pas aussi forts qu'un powerlifter par exemple. Mais rappelez-vous, les powerlifters s'entraînent pour être forts, pas les bodybuilders nécessairement. Si un bodybuilder super gros se mettait à s'entraîner pour être fort, croyez-moi qu'il va devenir fort.
Puis souvent même, il y a des bodybuilders qui sont super forts, que mettons on prend exemple Ronnie Coleman, il était super fort parce que lui, il intégrait la force à son entraînement. Fait en plus, il avait la masse musculaire, quand il faisait des périodes plus de force, ben il levait des charges, là, c'était incroyable. Ouais. Fait que, mais si pour les bodybuilders qui s'entraînent jamais en force, c'est normal que quand on les regarde, on fasse « ouais, il est weak un peu », mais c'est parce qu'il fait jamais de la force.
Puis encore là, tu sais, ce qui pourrait être intéressant, comme tu disais tantôt, Brian, ce serait de comparer, mettons, faire un 15 RM ou bicep curl versus un bodybuilder versus un powerlifter, tu sais. La force que vous développez est vraiment spécifique ou même, à votre façon de s'entraîner.
Ou même faire, par exemple, un 30 RM au back squat.
Ouais.
Je veux dire, je suis pas mal sûr que ça serait au moins pas mal égal parce que les bodybuilders sont habitués de faire du high rep. Donc, ayez pas peur de faire vos séries de 12 répétitions, ça va pas vous rendre vos
muscles. Pour rien, mettons.
Ça va pas rendre vos muscles plein d'eau.
On parle, mettons, surtout pour les sports à catégorie de poids, mettons, comme le powerlifting, c'est ça. T'sais, on fait tout le temps référence au powerlifting parce que c'est notre sport de prédilection, mais tu sais, on va souvent entendre ça. T'sais, c'est sûr que si t'es vraiment flush dans ta catégorie, puis là, tu veux prendre du muscle, ben là, tu sais. Des fois, peut-être penser à changer de catégorie à la limite, là. T'sais, si tu veux prendre du muscle, puis t'es déjà dealé over ta catégorie, ben là, tu sais. Je veux dire, il y a quand même des limites à ce que l'hypertrophie va t'apporter comme bénéfice. Si t'es tellement au-dessus de ta catégorie, je sais pas comment dire ça. Là. Oui, ça va t'amener plus fort, mais là, à un moment donné, tu te limites, là, je veux dire.
C'est ça. Mais ça, ça sera dans une autre capsule.
Je sais pas, c'était comme pas tellement clair, là.
Non, c'était clair.
Okay.
Fait j'espère que vous avez aimé notre podcast.
Ouais.
Je pense qu'on l'a rentré dans notre temps, un peu plus qu'on espérait, mais quand même dans notre temps. Dans 2 semaines, ça va être sur comment survivre au repas des fêtes.
Ouais.
En attendant, je sais que les parties de bureau sont déjà commencées.
Ouais.
Essayez d'avoir du fun quand même en attendant.
Tu sais, ce que je dis souvent, là, mettons, c'est, tu sais, idéalement, là, c'est bien correct d'aller à un souper, mais quand vous êtes à votre souper, relaxez, ayez du fun, stressez pas avec ça, puis essayez de rembarquer, par exemple, dans votre routine le plus rapidement possible. Tu sais, le lendemain, tu sais, souvent les gens vont dire « Ah, oh, là, j'ai mangé de la scrapière, j'ai tout gâché », puis là, ils vont comme continuer à gâcher toute la semaine. Non, là, t'as eu un souper, t'as eu du plaisir, mais le lendemain, retourne au gym, mange tes affaires, mange tes brocolis, tes légumes, puis tout ça, puis tu sais, ça va bien aller, mais quand t'es à ton souper, enjoy. Tu sais, c'est le temps des fêtes, c'est normal, profitez-en. Puis, c'est ça.
Sur ces bons conseils d'Élodie, je vous souhaite une bonne semaine et à dans 2 semaines. Libor Performance.